se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante,
allez,
à la
Christian.
Brocante,
eh oui.
Des vieux phonos,
alors,
des vieux pianos.
Je connais bien Charles Trenet, mais je ne connaissais pas du tout cette chanson.
Et voilà, Charles Trenet, donc, j'aime bien, parce qu'à l'époque, on ne disait pas brocante, on dit brocante.
Oui.
C'est vrai, il y avait
comme Charles Trenet dans les brocantes, c'est sûr.
Eh oui, bien eh sûr, oui. Comme vous, Christian.
Oui.
Christian
voilà.
Trenet et traîne dans les brocantes.
Voilà, les brocantes, les vides-greniers.
Notre dossier de ce samedi matin.
C'est notre dossier de samedi matin. Nous avons un invité qui connaît très bien tout cela, c'est Anthony Gros-Godonnier. Bonjour.
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 Vous êtes cofondateur de mybrocante.fr. Avant d'entrer dans le sujet, c'est quoi mybrocante.fr ? Ça sert à quoi ? C'est simplement un site qui recense les brocantes, non ? Il y a
alors,
plus ?
Non, d'abord, mybrocante, c'est un outil pour les organisateurs de brocantes.
Ah oui.
Vide-grenier, enfin tout ce qui est autour de la vente au déballage, qui va permettre à l'organisateur de mettre en ligne sa manifestation pour que les exposants puissent réserver en ligne et payer en ligne. Donc, c'est réserver de chez soi son emplacement sur une carte interactive d'emplacement, pouvoir visualiser son emplacement en 5 minutes. Et pour l'organisateur, c'est un gain de temps considérable. On fait gagner environ 300 heures en temps homme à nos organisateurs en moyenne sur chaque manifestation.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que c'est très chronophage, la gestion des inscriptions,
bien
la
sûr.
Préparation,
évidemment,
l'amont
ouais.
des brocantes.
Alors, d'ailleurs, qui organise des brocantes ? Parce qu'on sent. C'est les villes, c'est quoi ?
Alors, on a environ 80% des organisateurs qui sont des associations. C'est une très grosse source de financement. Financement en fait pour les associations, la vente d'emplacements, c'est ils font une animation par an pour vraiment se financer
Après, et sur la buvette aussi, j'imagine.
Voilà, la buvette, etc.
Les sandwichs, voilà. Les merguez.
Et ensuite, on a les communes, les collectivités, donc les mairies en général. Et il y a une toute petite part de professionnels qui organisent, en tant que prestataires pour le compte d'associations, qui organisent en propre, mais ça représente une toute petite part. Voilà.
D'accord. Et d'une manière générale, il y a de plus en plus de gens qui sont adeptes des brocantes.
Oui, alors la brocante, elle va en poupe. C'est vraiment, en termes de visiteurs, c'est vraiment des manifestations qui drainent énormément de visiteurs. À Lyon, où on est implanté, on a par exemple la brocante Chevreul qui draine, c'est sur une grande rue, ça draine 15 000 personnes dans la journée.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment avec toute la mode du vintage,
ouais.
de la bonne affaire, tout ça, c'est...
Mais l'essentiel en nombre, c'est quand même les petits vides-greniers de village, de villes moyennes, c'est tous azimuts, quel que soit le type de commune.
C'est très éparpillé. Il y a des toutes petites manifestations avec 30 exposants ou de très grandes avec, ça peut aller jusqu'à 1000 exposants, entre 500 et 1000, on considère que c'est une grande manifestation. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 60 000 manifestations par
60 000
an. 60 000 ventes au déballage par an.
Ouais. D'accord.
Ouais.
Alors, concrètement, je veux exposer. On va se mettre d'abord du côté des exposants. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on paye ? Ça ne doit pas être très cher, parce que quand on voit ce qu'il y a sur les stands, on se rend compte qu'on ne peut pas en faire fortune, je pense.
Alors voilà, souvent le prix de l'emplacement est déterminé aussi par la popularité de la manifestation. S'il y a beaucoup de professionnels ou plus de particuliers, généralement quand il n'y a que des particuliers, c'est moins onéreux.
Alors, Alors c'est quoi? C'est au mètre linéaire? C'est à la surface?
Comment alors ça généralement se passe? C'est au mètre linéaire. On raisonne en mètre linéaire.
Et en gros, voilà. C'est combien?
En moyenne, on est sur 4 euros du mètre linéaire, 4-5 euros.
Ah oui, donc ouais. C'est quoi? C'est une quinzaine d'euros pour la journée?
Oui, voilà. En moyenne, un exposant va prendre 4 mètres.
D'accord. Et ouais, voilà. C'est 15-20 euros.
Voilà, 15-20 euros.
Ouais, bah, il faut vendre au moins pour 15 ou 20 euros dans la journée pour
mais
amortir.
Alors, une question, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas des professionnels, mais des semi-professionnels, des gens qui sont des habitués, qui sont très organisés, ils ont tous leurs bardas, les parasols, etc. On peut faire combien de brocantes par an sans entrer dans le commerce?
Alors, la réglementation est simple. En tant que particulier, on peut faire 2 vide-greniers, brocantes, enfin, vente au déballage par an.
Ah oui, c'est tout.
Deux, pas plus. Chaque organisateur doit demander à ses exposants une attestation sur l'honneur, comme quoi il ne fait pas plus de 2 vide-greniers par an. Ah oui. Après, il est considéré comme professionnel et donc il doit déclarer ses revenus de ses ventes en tant que professionnel.
D'accord. Voilà. Ah oui, c'est quand même réglementé. C'est pas à la bonne franquette comme ça.
Moi, j'avais juste une question. Est-ce que le Bon Coin, enfin tous ces sites-là, ont donné une espèce de stop en fait à la brocante et ralenti un peu cette activité ou pas?
Alors non, pas du tout. En fait, on se rend compte que la présence en ligne, la vente en ligne,
n'a pas d'impact sur la vente physique traditionnelle.
Voilà. Parce qu'avant tout, une brocante, un vide-grenier, c'est une animation, c'est pour dynamiser le centre-ville,
le
commerce, c'est de l'événementiel.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une garantie que donne le vendeur, c'est-à-dire quand on est sur ce genre de brocante, est-ce qu'on peut demander le nom, le numéro de téléphone de celui qui vous vend, par exemple une télé que vous pouvez pas tester?
Alors non, ça c'est bien non. Le problème, c'est que
voilà, c'est à vos risques et périls là. Faut
on arrive,
savoir.
On achète, je sais pas, un petit transistor vintage. Il est voilà, on peut pas le tester, on peut pas le brancher. On arrive chez soi, s'il fonctionne pas, malheureusement, l'acheteur.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on paye pas cher, mais voilà, on n'a pas de
garantie.
Il faut pas
payer cher d'ailleurs.
On n'a pas de garantie quoi.
Mais on peut négocier sur la brocante.
Oui. Voilà.
Ça fait partie du jeu, non?
Partie du jeu, oui, exactement. Oui.
Est-ce qu'il y a des arnaques classiques? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Je sais pas. Est-ce que quelque chose de bien briqué, ça révèle peut-être un piège?
Mais je sais pas. Est-ce que si Christian Pesset me vend sa chemise 50 euros, par exemple, est-ce que vous pensez que je fais une bonne affaire ou pas?
Alors, je sais pas.
D'abord. Vous pouvez y aller. Hein,
d'abord.
Vous savez ce que vous en pensez.
D'abord, c'est pas parce qu'il a un polo avec un crocodile qu'il faut qu'il se croit.
Non, je dis pas ça, mais c'était un exemple.
Oui,
bien
mais
sûr.
Moi, je ne l'ai pas avec ces questions.
Voilà, mais moi, il n'aime pas ma chemise. Moi, je la dédicacerai.
Je pense
aussi.
Que vous pouvez la négocier à 40 euros.
À 40 euros quand même.
Ouais, quand même. Alors, donc, les arnaques les plus classiques,
alors, généralement,
c'est quoi?
On est quand même sur des prix très bas parce qu'on a quand même beaucoup de particuliers sur la vente de déballage. Après, les arnaques, c'est quand vous êtes justement devant des exposants un peu semi-professionnels qui peuvent vendre des objets soit de marques ou des objets je sais pas de design
ou de fausses marques
ou de fausses marques, donc là voilà, il faut faire attention, il faut voilà, pas trop, pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a pas trop de garanties, donc toujours
est-ce que on détecte tout de suite un vrai vendeur d'un vendeur du dimanche qui vient vider son vide-grenier, ou est-ce que finalement c'est quand même assez subtil?
Ah oui, on s'en rend compte, on voit sur les brocantes, généralement les particuliers c'est assez familial, enfin vous voyez des familles qui déballent avec beaucoup de ventes d'objets, de jouets, de vêtements d'enfants, et puis après
les enfants qui grandissent, on vend les anciens jouets, les choses comme ça.
Exactement. Après, quand vous voyez plus d'ameublement, de meubles, d'objets un peu vintage, de design, là on est sur des vendeurs plus professionnels.
Mais alors, sur les vrais brocantes, je vais dire, de professionnels, on est bien d'accord que là, en revanche, le vendeur doit avoir son panneau annonçant qui il est, son registre du commerce ou
alors,
de métier,
oui,
sur ce qu'il fait.
Oui, il a une carte de déballeur professionnel qu'il doit présenter à l'organisateur pour exposer en tant que professionnel. C'est très réglementé là aussi.
D'accord. Voilà. Sont les puces, par exemple, tout ce qui est puces parisiennes, je sais qu'il y a une nuit des puces aujourd'hui, là ce sont des vrais pros, les puces Porte de Vanves, des choses comme
exactement,
ça.
Exactement, les puces de Saint-Ouen, les puces du Canal à Lyon qui sont assez réputées, où là on a des vrais vendeurs professionnels ont des beaux objets qui sont un peu plus onéreux, qui ont été qui sont restaurés.
Là on peut même exiger une facture par exemple.
Oui, ce sont des pros. Ce sont des vendeurs professionnels. Vous pouvez exiger une facture ou des certificats d'authenticité.
Anthony, est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent, qui s'apprêtent peut-être à faire aujourd'hui ou bientôt une brocante? Est-ce qu'il y a des petites astuces, par exemple? Est-ce qu'il faut tout mettre d'un coup? Est-ce que on doit... Enfin, je sais pas.
Est-ce qu'il faut mettre
quand on prépare son chaland, est-ce qu'il y a des petits trucs qui font que ça va pour attirer l'œil, etc. L'emplacement aussi, ouais. Je sais pas.
Alors, c'est sûr. Déjà, il faut bien choisir son emplacement si l'organisateur laisse le choix.
Mais parce que si on est au fond du truc derrière
les poubelles.
Voilà, exactement. On a toujours des rues dans lesquelles on vend moins, il y a moins d'affluence. Après, une brocante, quand on veut exposer, il faut bien sûr la préparer, il faut bien référencer ses objets, faire un fonds de caisse, parce que les gens arrivent payés en liquide, donc bien penser à faire un fonds de caisse.
Ah oui, donc il faut des pièces.
Il faut des pièces, il faut faire de la monnaie, bien préparer son stand. Moi, j'ai vu pas mal d'exposants qui mettaient de la musique sur leur stand et du coup, ça attirait quand même pas mal les visiteurs. C'est tout bête, on n'y pense pas.
Si tout le monde met de la musique, là, on est foutu.
Oui, bah après, c'est festif. Hein.
Ouais, et puis par exemple, on veut vendre une vieille platine vinyle, on la branche. Voilà. Bon, après, il faut trouver le courant,
Faut trouver de quoi la brancher.
Ça, c'est clair.
Voilà.
Et alors, justement, on parlait de vinyle, tous ces trucs-là, ça doit cartonner, non, en ce moment, non?
Alors, ce qu'on observe, il y a quand même pas mal de manifestations à thème, maintenant, qui se développent. Donc, sur les vinyles, le geek aussi, tout ce qui est jeux vidéo anciens.
Rétro gaming.
Voilà.
Oh, Christian, voilà. Bravo.
Sur le rétro gaming.
Vous m'avez sorti ça comme ça, là. Bam.
Voilà, donc ça, c'est des manifestations qui sont un peu de niche, qui sont assez courues.
D'accord. Et alors, quel est le top 5 des objets qui se vendent le plus ou qui s'arrachent le plus?
Alors, tout dépendra de la manifestation. Voilà, d'accord. Si vous êtes sur un vide-grenier, il y aura... Enfin...
Par exemple, si j'ai des jeux vidéo, je sais pas.
Alors,
je suis sûr d'en vendre un bon paquet.
Alors, des objets, les objets vintage, je sais pas, la Dame Jeanne, vous savez,
la grosse bouteille.
La grosse bonbonne.
Alors autour.
Ça se vend très bien.
Ça se vend bien, oui.
Ce genre d'objets, c'est surtout des objets déco un peu anciens.
Voilà, si on a des objets déco un peu anciens, années 70, ça part.
Exactement. Les tabourets Tam Tam, par exemple.
Ah, les tabourets Tam Tam.
Ils sont réédités dans beaucoup de magasins aujourd'hui.
Oui, qui coûtent une fortune d'ailleurs. Hein. Oui, si on achète les originaux, ça coûte un bras. Hein.
Exactement.
Donc, tout ce qui est déco, petits meubles aussi ou pas?
Oui, voilà. Alors, il n'y a pas de gros meubles hein, sur les
bancs,
rarement. C'est plutôt des petits objets du quotidien.
D'accord. Vous avez des questions sur ce sujet dès maintenant, appelez-nous. Hein. On parle de la brocante ce matin avec Anthony Gros-Godonier, c'est comme ça qu'on dit?
Oui.
Eh bien voilà, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christian, vous avez encore des questions concernant la brocante?
Oui, j'ai des questions. Tiens, il y a un médecin qui entre sur ce plateau-là.
Ah, vous voulez acheter un thermomètre?
Mais on pourrait peut-être savoir si...
Est-ce qu'on peut acheter un thermomètre?
Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes sanitaires aussi sur...
Des problèmes sanitaires sur le... Alors, vous savez quoi? Christian Ecap vient de rentrer, il s'est jeté comme un lion sur une antilope sur le micro, mais heureusement, nous arrivons à la contenir. On va le retrouver dans un instant. Et puis, je vous rappelle, donc, vos questions sur la brocante, dès maintenant, 3216, ou via l'appli RMC Direct Studio. Et je serais curieux de savoir si Christian Ecap est un adepte des brocantes. On va lui poser la question dans un instant. Tiens, c'est le suspense. A tout de suite.
RMC. Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Allez, encore quelques minutes sur la brocante. C'est notre dossier de ce samedi matin avec Christian Pessé, bien sûr, et Anthony Gros-Godonier, qui est cofondateur de mybrocante.fr. Christian Ecap nous a rejoint dans ce studio. Christian, est-ce que vous faites de la brocante un petit peu de temps en temps dans votre vincennes préférée?
Avec mon grand-père, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, les brocantes étaient obligatoires.
Ah, d'accord.
Et nous avions...
Faut pas faire une overdose après, parce que...
Alors c'était le problème de mon grand-père.
Quand on fait ça et qu'on pleure...
Il avait une très grande maison, et franchement, c'était chez lui une vraie brocante.
D'accord.
De très grande qualité, parce qu'il achetait quelque chose et il le remettait à neuf d'une façon exceptionnelle. C'était des pièces superbes.
Alors justement, l'une des questions que j'aimerais vous poser, c'est que il y a aussi des brocantes privées presque, c'est-à-dire des vide-greniers privés. Lorsqu'on veut quitter une maison, on fait quoi? On fait son vide-grenier, son vide-appartement,
c'est le déstockage.
Justement, ça c'est quelque chose qui se développe énormément, c'est le vide-maison. Ouais. Alors souvent, ça intervient après le décès d'une personne âgée. Il y a une maison avec beaucoup de meubles. Et donc, on a plusieurs solutions, le bon coin et la brocante, ou faire débarrasser ça par quelqu'un.
Ouais.
Et souvent, enfin, c'est sur le modèle américain des garage sales, où on publie une date sur un agenda brocante.
Ah oui,
avec l'adresse, et d'accord, les gens viennent pour acheter, acheter le mobilier, les objets.
Oui, ils achètent et ils viennent prendre, en fait, oui, c'est ça. Voilà. Après, ils se débrouillent, ils viennent avec leur camion, si c'est une armoire normande.
Acheter le Rembrandt, acheter
des choses à 10 euros. Autrefois, ça se faisait sous la vente, et ça se fait encore à la campagne, sous les ventes aux enchères, sur site, hein, oui, sur la maison. On en voit encore. Mm-hmm. Mais là, c'est un peu assez différent. C'est vous qui organisez ça.
Oui, c'est différent, oui.
Dernière petite question. Nous avons une autrice qui nous dit « Je fais une brocante demain. Je me demande si les vêtements d'enfants se vendent bien. »
Oui, ça se vend très, très, très bien.
Eh bien, voilà.
Oui, vraiment. Alors, ça, c'est quelque chose. C'est les exposants qui font les meilleures recettes, généralement, les vêtements d'enfants.
Et oui, parce que là, ouais, ça se vend 1 euro. Enfin, c'est voilà, quelque chose. Voilà. Mais ouais, si on en a beaucoup.
Il ne faut pas mettre des prix trop élevés.
Et non.
Mais si on veut tout vendre, voilà,
ça peut être pas mal.
Ouais, ça peut être pas mal.
Très bien. Bon, mais faites-les bien présenter et tout quand même, hein, pour que ça donne envie.
Oui,
hein.
Voilà.
C'est parti. C'est la partie aussi du jeu, ça.
Oui,
hein,
oui, c'est ça. Il faut avoir un stand qui.
Parce que si vous faites tout, mais si vous mettez tout en boule comme ouais, ça, on dévalorise un peu tout ça. Hein.
Exactement. Et il n'y a pas de problème sanitaire justement sur ces objets. Il faut qu'ils soient déjà vendus. Enfin, ces vêtements, des
alors,
choses.
Alors, il vaut mieux arriver avec des vêtements propres.
C'est ça. Non, mais il ne faut pas acheter. Il ne faut pas les acheter s'ils ne sont pas propres.
Oui, bien sûr.
Ah oui, à donner.
Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, 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 effectivement. Bien, merci,
merci
beaucoup.
Merci,
merci Anthony Brogodonier, donc le cofondateur de mybrocante.fr. Christian, oui, nous avons Nicolas au 32-16. On passe carrément à autre chose. Nicolas, bonjour.
Bonjour Pascal, pardon François, et bonjour Christian.
Bonjour.
C'est pas mal,
bonjour
Pascal.
Bonjour Fernand.
Hein.
Bonjour Fernand.
Alors, j'ai dit Pascal parce que Christian, je dois vous passer le bonjour de Pascal de Takayaka. C'est pour ça.
Ah, très bien. Vraiment, vous le saluerez de ma part.
C'est qui ce voilà, Pascal de Takayaka?
Qui était venu, c'est un, on va dire un blogueur, un influenceur, comme
un
on dit
YouTuber,
aujourd'hui.
Ouais.
Un YouTuber.
Ah oui, d'accord. Et Nicolas, on vous écoute. Que vous arrive-t-il?
Alors voilà, je me permets de vous contacter afin peut-être de, un petit peu d'éviter de diaboliser en fait finalement le frein vapeur, le pare vapeur. J'ai rencontré beaucoup de problèmes parce que je passe par un constructeur de maison individuelle, hein, et oui, j'ai essayé de lui imposer certains matériaux, et en fait je voulais me conforter et puis un petit peu rassurer les artisans qui s'en sont plutôt friands maintenant depuis qu'ils l'ont mis en œuvre. Mais je voulais un petit peu avoir un retour d'un expert sur la mise en œuvre d'un frein vapeur. Est-ce qu'il faut le diaboliser? Est-ce qu'il faut le préconiser?
Pourquoi le diaboliser? Non, non, mais attendez, le frein vapeur.
Les artisans ont beaucoup d'échos négatifs par rapport à cela, peut-être dû à une mauvaise mise en œuvre ou alors une valeur SD qui a été mal calculée en fonction des matériaux choisis. Alors moi, je me suis passionné un petit peu sur le sujet, donc j'ai essayé de leur expliquer cela. Mais quand on n'est pas artisan et qu'on est un simple client, il est un petit peu compliqué d'avoir une crédibilité là-dessus. Et donc, c'est la raison de l'appel
alors,
de ce jour.
Le frein vapeur, par vapeur, c'est cousin. Ça ouais, veut dire que lorsqu'on met un isolant, il faut mettre justement un frein vapeur ou un pare vapeur qui était souvent traditionnellement qu'il est encore en papier craft, hein, ou justement aujourd'hui ce qu'on appelle frein vapeur, une membrane qui permet, qui est davantage respirante dans un sens et pas forcément dans l'autre, pour éviter les phénomènes de condensation. Donc je vois pas la problématique. La seule problématique aujourd'hui qui se passe, c'est que le frein vapeur ayant une étanchéité donc à l'air dans le sens dans le sens de pénétration, eh bien parfois il cause des phénomènes de condensation parce que la maison est mal ventilée. Donc frein vapeur bien sûr du côté le plus chaud et évidemment une bonne ventilation. Ça c'est la règle absolue aujourd'hui. C'est-à-dire c'est ce qui est le plus négligé notamment dans la rénovation où on fait des cocottes minutes, si j'ose dire, je ne veux pas citer de marque, mais en tout cas les autocuiseurs parce que il y a une accumulation de vapeur d'eau dans la maison, il y a une étanchéité à l'air de l'habitat, ce qui est devenu une règle absolue avec la réglementation thermique 2012. Et qui va le devenir encore plus dans l'avenir. Et évidemment, sans bonne ventilation, eh bien, on a des pathologies qui se développent, pathologies du bâti, c'est-à-dire de la maison elle-même, et pathologies des gens qui respire mal, qui multiplication des germes. Je vois Christian Reca qui fort sympathiquement m'applaudit. On ne l'entend pas, mais on croit quoi. Voilà. Merci.
Non, mais c'est vrai que l'hygrométrie d'une maison, c'est pour ça que j'ai imposé une laine végétale. Je ne cite pas non plus de
ça
de
ne sert à rien.
Et avec un,
ça ne
un
sert à écoutez-moi, ça voilà, ne sert à rien que vous ayez du végétal ou de la laine de verre ou de la laine de roche. C'est pareil. Vous payez simplement un peu plus cher parce que vous prenez du végétal. Et ce n'est pas plus efficace.
Merci beaucoup, Nicolas. 7h52.